Alors, nous avons le grand plaisir pour la dernière séance du séminaire d'entendre Odile Bombarde et de fonctionner en famille, si je puis dire. Comme vous le savez, Odile Bombarde est maître de conférence au Collège de France, où elle a d'abord été attachée à la chaire de professeurs illustres, Blin, Yves Bonnefoy, hein, et puis ensuite, elle a bien dû être avec quelqu'un, elle s'est retrouvée avec moi. Mais alors, auprès d'elle, je ne cesse de m'instruire. C'est une normalienne, agrégée, une universitaire classique, si je puis dire, mais qui n'est pas classique du tout. D'abord parce que son domaine dans l'ordre littéraire, c'est la poésie contemporaine. Et ensuite, parce qu'elle est psychanalyste, c'est un métier aussi, c'est professionnellement, si je veux dire, et que du coup, elle a une ouverture sur le monde et sur l'âme, moi, qui me remplit d'une admiration sans borne. Et donc, nous allons l'écouter avec intérêt, affection, admiration.
Je ne sais pas si je peux vous remercier pour cette présentation si flatteuse qu'elle en est fausse et presque dérangeante, mais je vous remercie beaucoup, cher Michel Zinc, de me faire une nouvelle fois l'honneur de m'inviter à parler dans votre séminaire, moi qui ne suis qu'une non-médiéviste. Et donc, c'est en effet de la poésie moderne, dans son rapport avec l'humiliation, que je vais parler, en m'appuyant sur les œuvres de Baudelaire et de Jouve. Alors, il est prudent de ne pas parler du Moyen-Âge devant des médiévistes, mais mon sujet n'est pas dénué de danger pour autant. Il est vague et mystérieux. Bien qu'il soit mystérieux, on pressent qu'il est beaucoup trop vaste pour être traité sérieusement en une séance. S'en tenir à deux poètes, mais pour les rassembler sous l'angle d'une question dont on veut montrer qu'elle est présente chez chacun d'eux, c'est se condamner à ne parler d'aucun des deux. Et un autre risque dans cet exposé, dans cet énoncé, donc qui s'intitule « Quelques aspects d'une fonction de l'humiliation dans la poésie moderne », c'est celui qui consiste, emporté par l'enthousiasme, à tirer du côté de l'humiliation des faits, des notions et des affects voisins. La honte, la culpabilité, la haine, la souffrance, le sadisme, le masochisme, la révolte, la cruauté et l'expiation, la mortification. À ma décharge et par précaution, je dirais que ce que j'ai voulu, c'est que mon intervention soit dans l'esprit d'un séminaire. Je voudrais jouer le jeu d'un séminaire en rapport avec le cours. C'est-à-dire qu'il s'agira simplement de faire part des associations que peut inspirer la réflexion de Michel Zinc cette année sur l'abaissement, l'humilité et l'humiliation au Moyen-Âge, lorsqu'on réfléchit à la poésie moderne. Les éclairages que je vais proposer exigeraient bien sûr des développements plus longs pour ne pas sembler infondés. J'espère cependant qu'ils ne le sont pas complètement. Et comme l'humiliation n'est pas une perspective très répandue pour parler de poésie, c'est donc aussi pour avoir accepté mon sujet et pour m'avoir donné l'occasion d'y penser que je remercie de rechef Michel Zinc. L'œuvre de Pierre-Jean Jouve est moins connue que celle de Baudelaire. Jouve est né en 1887 et mort en 1976. Il occupe une position solitaire et même marginale dans la poésie française. Il est presque exactement le contemporain de Georges Bataille et d'André Breton. Mais il a pris grand soin de se tenir à distance de tout mouvement littéraire et en particulier du surréalisme dont il était le contemporain. Et il est frappant de constater qu'il y a chez lui à la fois la conviction explicite d'occuper une place capitale dans la poésie française et le quasi-besoin de n'être pas estimé à sa juste valeur et d'en souffrir. De fait, il continue d'être peu lu, d'être d'une certaine manière refusé. Pourtant, bien qu'il n'ait ni fait école ni cherché à le faire, la rencontre avec son œuvre a été essentielle pour un certain nombre des poètes et écrivains qui sont venus après lui. Prendre conscience de l'enracinement dans la pensée médiévale, qui est la plupart du temps invisible parce qu'il passe par différents relais, Voilà qui dépayse le rapport à des textes bien connus. L'intérêt de cette lecture simplificatrice que je vais proposer, c'est, je crois, ce dépaysement. Faire entendre différemment certains poèmes ou certaines proses, et même peut-être venir à l'appui de lectures critiques, des nombreuses lectures critiques qui ont déjà été faites. Un exemple, vous parliez d'Yves Bonnefoy en disant que c'était un peu d'Yves Bonnefoy qui parlait à travers moi. Non, ce n'est pas vrai, je me contente de citer Yves Bonnefoy. En effet, mon exemple vient d'Yves Bonnefoy. Dans le premier de ses textes sur Baudelaire en 1955, Yves Bonnefoy a souligné en des formules très radicales qu'il n'emploierait certainement plus aujourd'hui l'importance de la mort dans l'œuvre de Baudelaire. Je cite « Baudelaire a choisi la mort et que la mort grandisse en lui comme une conscience et qu'il puisse connaître par la mort. » Ou encore « Il a ranimé la grande idée sacrificielle inscrite dans la poésie. Il a inventé, lorsque Dieu pour beaucoup avait cessé d'être, que la mort peut être efficace. » Et Bonnefoy conclut son texte après avoir vu en Mallarmé, Proust, Artaud ou Jouve des continuateurs de Baudelaire en disant ceci « La mort accomplirait le destin du Verbe, elle ouvrirait au sentiment religieux, au terme de sa longue errance, la demeure de poésie. » Or, un des points que je voudrais faire valoir, c'est qu'on peut reconnaître au moins sur un versant des œuvres de Baudelaire et également de Jouve que ce choix sacrificiel, si tant est qu'on en accepte l'idée, s'appuie sur des identifications, parfois inconscientes, mais qui sont loin de l'être toujours, avec l'humiliation de la croix, et corrélativement avec la gloire de la croix. Ce qui retrouve ou répète le paradoxe examiné par Michel Zinc et peut contribuer, je crois, à éclairer un des aspects de la situation de la poésie au sein de la littérature moderne. Un aspect qui découle de l'histoire des genres littéraires et de leurs attributions successives. Jusqu'au début du XIXe siècle, le genre épique en vers était resté le genre littéraire majeur. Mais au XIXe siècle, c'est le roman en prose qui hérite de toute la tradition du récit liée à l'épopée. Parallèlement, la promotion du lyrique s'accomplira dans un mouvement progressif de dénégation à l'égard du récit, ça a été étudié en particulier par Dominique Combes, un mouvement de dénégation qui trouvera bientôt sa théorisation chez Mallarmé avec le refus de l'universel reportage. Baudelaire arrive à la fin du romantisme. La poésie, comme genre littéraire, expérimente les effets d'une réduction de ses domaines d'attribution, dont le repli du Parnasse avec sa religion de l'art pour l'art, qui est une réaction au romantisme, est déjà une manifestation. La poésie est entrée dans une ère où elle pourra éprouver des raisons de se sentir dévaluée, isolée, humiliée peut-être, au sein de la société. Aux yeux de Baudelaire, le poète ne peut plus être un mage, un chantre, un prophète, comme il l'a été au temps du romantisme triomphant. Au point que Baudelaire est certainement celui qui a poussé le plus loin la conscience d'une fonction de l'humiliation en poésie, aidant en cela donc à prendre la mesure de son statut actuel, puisqu'il est pour elle une origine. Statut qu'on pourrait définir, mais uniquement dans le cadre de liberté qu'autorise ce séminaire, qu'on pourrait définir, donc une définition qui ne serait valable qu'aujourd'hui, comme une tension entre la conscience d'une restriction de ses fiefs et une certitude de ses pouvoirs. Or, c'est précisément et paradoxalement à partir de Baudelaire que la poésie, dans la conscience qu'elle a de ses devoirs, de son idéal et de ses pouvoirs, a commencé à s'assigner à elle-même une fonction quasi sotériologique. Sotériologique pour l'individu, pour l'être même, et non plus pour les foules ou pour les peuples. N'est-ce pas en réponse défensive ou même apotropaïque à la situation qui devenait progressivement la sienne au sein de la création littéraire, situation d'humiliation? C'est aussi en réponse au matérialisme croissant de cette société qu'elle s'assignera des tâches de nature spirituelle. Je crois que la question médiévale de l'humiliation et de son renversement en gloire aide à penser ce paradoxe. Ces situations d'humiliation infligées ou subies avec la gloire qu'elles promettent parfois Michel Zinck nous a montré à quel point elles sont obsédantes dans les scènes de la littérature médiévale. Cette image de l'humiliation de la croix associée à la gloire de la résurrection fournit chez Baudelaire une sorte de support à certaines des représentations paradoxales que la poésie se donne d'elle-même. Pensons à ce poème bien connu, l'Albatros, le deuxième des Fleurs du Mal. L'humiliation infligée au vaste oiseau des mers, oui, c'est bien ça, est une allégorie de celle infligée au poète par la société. Eh bien, remarquons que les deux derniers vers de la troisième strophe forment une scène de Christ aux outrages, à la fois par l'ingéniosité et la variété des supplices et par l'esprit d'équipe, si on peut dire, dont font preuve les bourreaux. Et la scène de martyr de l'Albatros précède l'image de l'envol du prince persécuté. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule. Lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Le poème suivant dans Les Fleurs du Mal, c'est « Élévation ». Par ailleurs, la dédicace que Baudelaire adresse à Gautier dit ceci. « Au poète impeccable, au parfait magicien, est-ce lettre française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. » La plus profonde humilité, c'est l'indication de son admiration pour l'auteur des mots écamés, admiration cependant accompagnée de la certitude que pour la poésie, l'époque n'est plus et ne sera plus à la religion du beau et à la magie des lettres dont Gautier est l'illustre représentant, mais aux fleurs maladives. La muse sera malade, vénale, ce sont des titres de poèmes des Fleurs du Mal, avec la plus profonde humilité, c'est aussi un carrefour, un congé qui est pris. Pour ancrer un peu plus encore la légitimité qu'il y a à examiner la fonction de l'humiliation et de l'humilité chez Baudelaire et chez Jouve, et pour annoncer simplement par deux citations le mouvement que je voudrais mettre en évidence, je cite une phrase de Baudelaire sur laquelle je reviendrai et un vers de Jouve. La phrase de Baudelaire, qui vient d'Hygiène, une partie des journaux intimes, c'est celle-ci. « Mes humiliations ont été des grâces de Dieu ». Quant à Jouve, dans un poème de la section intitulée « Humilis » du recueil poétique « Les Noces » en 1926, il écrit ce vers « Avec humilité, disait le poète dément. » C'est écrivel ? J'ai un doute à tout le monde. Je crois que c'est écrivel, pardon, c'est écrivel, le poète dément. Évidemment, ce n'est pas à Baudelaire que pense Jouve, c'est à Hölderlin, dont il a été le premier à traduire les poèmes de la folie sous ce titre. Hölderlin a passé la moitié de sa vie à Tübingen chez un menuisier, vous le savez, atteint de schizophrénie, mais vivant paisiblement loin du monde. Il y écrivait encore des poèmes, où il se montre surtout sensible à l'alternance des saisons, souvent à la demande des quelques visiteurs qui venaient jusqu'à lui, parce qu'ils étaient désireux de rencontrer dans sa solitude l'auteur des grandes élégies et des hymnes composés dans les années 1800. Un certain nombre de ses poèmes sont signés, enfin des poèmes de cette époque, sont signés par Hölderlin d'un nom d'emprunt, Scardanelli, et accompagnés de cette mention « avec humilité ». De la part de Jouve, citer cette signature, en faire le dernier vers d'un poème, suggère une solidarité entre poésie et humilité. Il associe l'activité poétique à l'exclusion par la société, quelle qu'en soit la raison. Hölderlin reçoit là, brièvement, le statut d'un martyr laïque dont le signe distinctif et le titre de gloire serait l'humilité. Alors, choisir Baudelaire et Jouve pour parler de l'humiliation et de l'humilité s'impose, en un sens, pour deux raisons qui se rejoignent et qui peuvent sembler fausser la démonstration, en offrant des échos et des points de contact trop attendus. D'une part, il y a une filiation baudelairienne pour Jouve. Non seulement il l'a désigné comme le fondateur de notre poésie moderne française, mais il le considère comme un de ses premiers maîtres. Il a écrit plusieurs essais sur lui, qu'il a rassemblé dans un volume intitulé « Tombeau de Baudelaire ». Et plusieurs des poèmes en prose que Jouve publiera à la fin de sa vie, en 1960, se réfèrent à la vie ou s'inspirent de l'œuvre de Baudelaire. On peut donc s'attendre à retrouver dans l'œuvre de Jouve un dialogue avec celle de Baudelaire. D'autre part, ces deux poètes ont un rapport étroit avec le christianisme, ce qui les prédispose à témoigner d'une continuité avec les problématiques médiévales, en tout cas de l'ancrage dans un univers de concepts et, à coup sûr, dans un vocabulaire venu du christianisme. Baudelaire, dire simplement qu'il est chrétien, ce serait faux. Sa religion travestie, comme il l'appelle, beaucoup de critiques se sont interrogées sur elle. Le fait est que Dieu et Satan occupent une grande place dans la dramaturgie des Fleurs du Mal. Mais faut-il prendre son satanisme au sérieux? Quelle est la part dans cette religion travestie de la grande tradition des prédicateurs du XVIIe siècle ou celle de Joseph de Maistre? L'auto-exhortation à la prière est très présente dans les journaux intimes. Mais les termes baudelairiens que sont péché, bien ou charité ne recouvrent pas tout à fait les concepts de la théologie. Pourtant, le passage qui précède la phrase des journaux intimes que j'ai citée, « Mes humiliations ont été des grâces de Dieu », c'est une citation de la première épître aux Corinthiens de saint Paul, « Sans la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante ». Néanmoins, une intention de blasphème articule plusieurs des poèmes des Fleurs du Mal, comme par exemple le reniement de Saint-Pierre. « Saint-Pierre a renié le Christ, il a bien fait », écrit Baudelaire. Et dans ce poème, on trouve à nouveau une scène de Christ aux outrages. Je cite « Lorsque tu vis cracher sur ta divinité la crapule du corps de garde et des cuisines, et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne où vivait l'immense humanité, rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux où tu vins pour remplir l'éternelle promesse ?» Il y a chez Baudelaire à la fois un désir de croire et une impossibilité à le faire. Il écrit « Quand bien même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. » Comme le dit Patrick Labarthe, le mystère du salut, en somme, ne le hante que sur un mode étranger aux formulations théologiques du dogme, et ce qu'il doit à la théologie, c'est la formalisation dramatisée des tensions de l'âme déchue. Et j'ajoute que cette formalisation dramatisée n'est pas mise au service d'une anthropologie, mais d'une représentation de la poésie, de ses devoirs et de ses impuissances, et que c'est à la poésie et au poète que revient le devoir de chercher un salut et de construire une morale. Jouve, lui, revendique une foi chrétienne, mais il la remodèle pour qu'elle réponde à ses besoins poétiques. Il a fait l'expérience en 1924 de ce qu'il appelle une conversion. Cette conversion marque pour lui le véritable début de son œuvre. Elle eut pour conséquence immédiate qu'il renia la totalité de ce qu'il avait publié jusque-là, à une époque où, âgé de 37 ans, il était déjà un écrivain et un poète. Cette conversion consiste en un mouvement spirituel dans diverses directions. Mouvement de conversion ou de retour au christianisme, qui était la religion dans laquelle il avait été élevé. Mouvement de découverte de la psychanalyse. Mouvement de dévotion amoureuse envers Blanche Reverchon, sa seconde femme, une psychanalyste. Puis, dans la suite de ces années, renoncement à l'écriture de romans pour se consacrer à la poésie, et il faut entendre ce terme « se consacrer » au sens religieux. Je cite « Je ressentais le besoin d'un contenu religieux de poésie, mais où suspendre une foi religieuse tâtonnante qui ne s'accordait que rarement avec le dogme ? Par humilité, il me semblait n'avoir pas le droit d'employer le mot « Dieu ». Je cherchais enfin des accords suprêmes entre la puissance du chant et une tendance finale de glorification. » Après cette date, il publiera en même temps Paulina 1880, Les mystérieuses noces et Des ébauches du paradis perdu, poème dans lequel il réécrit le texte de la Genèse. Le christianisme de Jouve comporte une captation du religieux par le discours poétique qui en intègre l'imagerie à son propre fond et cherche à faire de Dieu son bien. La faute, le péché, la sexualité blessée, la corruption de la chair et du plaisir, la valeur purificatrice de la douleur, la fascination de la mort et même du cadavre, la recherche de la grâce à travers l'éros et le rôle sanctificateur de l'art s'entrecroiseront tout au long de l'œuvre abondante qui va suivre. Le vocabulaire chrétien lui sert aussi de creuset pour une utilisation du concept psychanalytique de la culpabilité fondamentale liée aux conflits édipiens inconscients. Notons encore qu'un certain nombre de ces poèmes sont directement d'inspiration christologique. Vrai corps, en 1931, interprétation de l'Ave Verum Corpus, qui dans la liturgie catholique accompagne l'élévation de l'hostie, en est un exemple majeur. Je renvoie au commentaire qu'en a fait Jean Starobinski, mais je voudrais tout de même lire trois des quatre strophes de ce poème pour faire percevoir l'esthétisation du texte religieux et aussi le fait que Jouve associe l'humiliation de la croix à la gloire de la croix, ce qui est conforme au dogme, mais ce qui vient aussi servir l'idée de son propre avènement comme poète. Ce poème est placé à la fin du volume des Noces, reprise modifiée des Mystérieuses Noces. Il conclut le volume en reprenant, comme l'écrit Jean Starobinski, le langage de la célébration religieuse et des noces mystiques pour accomplir une autre célébration et pour recevoir l'anneau d'autres noces, c'est-à-dire des noces du poète avec la poésie. Alors, je lis ce poème. Salut, vrai corps de Dieu, salut, resplendissant corps de la chair engagé par la tombe et qui naît, corps, eau ruisselant de bonté et de chair, salut, corps, tout de jour, divinité aux très larges épaules, enfantine et marchante, salut, toute beauté, aux boucles, aux épines, inouï corps très dur de la miséricorde, salut, vrai corps de Dieu, éblouissant aux larmes qui renaît, salut, vrai corps de l'homme, enfanté du triple esprit par la charité. Témoin des lieux insensés de mon cœur, tu es né d'une vierge absolue et tu es né parce que Dieu avait posé les mains sur sa poitrine. Et tu es né, homme de nerfs et de douleurs et de semences, pour marcher sur la magnifique dalle de chagrin. Et ton flanc mort fut percé pour la preuve et jaillit sur l'obscur et extérieur nuage du sang avec de l'eau. Lorsque couché sur le lit tiède de la mort, tous les bijoux ôtés avec les œuvres, tous les paysages décomposés, tous les ciels noirs et tous les livres brûlés, enfin nous approcherons avec majesté de nous-mêmes, quand nous rejetterons les fleurs finales et les étoiles seront expliquées par notre âme. Souris alors et donne un sourire de ton corps. Permets que nous te goûtions d'abord le jour de la mort, qui est un grand jour de calme d'épousée, le monde heureux, les fils réconciliés. Le rapport au christianisme de Baudelaire et de Jouve, ce n'est donc pas, on le voit, qu'ils sont des poètes du christianisme. Même si c'est une formulation très réductrice, ce que Baudelaire et Jouve ont retiré de l'imprégnation chrétienne ou ont trouvé en elle, c'est une conception dualiste de l'existence, et l'hypothèse d'un salut qui permet d'accéder à une vérité, à condition que celle-ci soit rencontrée au terme de l'épreuve initiatique du mal, vérité qui n'est pas essentiellement religieuse, mais poétique. La filiation Baudelaire-Jouve est d'ailleurs placée par Jouve sous le signe de la sainteté de Baudelaire, une sainteté qu'il faut comprendre à la lumière des exigences de la poésie. « Ô cher, ô magnifique, ô très saint Baudelaire !» s'exclame l'ouverture du tombeau de Baudelaire. Et les scènes de préférence retenues dans le christianisme, celles qui fournissent nombre d'images poétiques, de canevas de récits, de formes où vient se loger l'humiliation et son corollaire glorieux, parfois non explicite, sont celles de la passion et de la résurrection. Chez Jouve, cela donne même lieu à un vers qui constitue à lui seul un poème. Je cite. « Seul, nu, en cœur, en vue. » Ou au poème qui ouvre « Sueur de sang », titre de recueil qui lui aussi se réfère à la passion. Ce poème intitulé « Crachat » est très court lui aussi et il est saisissant. « Les crachats sur l'asphalte m'ont toujours fait penser à la face imprimée au voile des saintes femmes. » Malgré ce terreau commun du christianisme, la question de l'humiliation n'est pas abordée par le poème en termes de récit, de faits objectifs ou vraisemblables, mais en termes de représentation imaginaire et d'acte psychique, ce qui constitue une grande différence avec la situation médiévale et avec les textes dont a parlé Michel Zinc. La littérature médiévale, a-t-il montré, porte sur l'humiliation un regard qui vient de l'extérieur. Elle montre pour le lecteur, qui devient un spectateur, à la fois la situation de celui qui humilie et celle de celui qui est humilié. L'humiliation y est le mal absolu, a-t-il dit, à cause de l'horreur qu'elle inspire. Mais elle est un fait qui suppose l'existence d'un public et en cela elle se distingue de la honte, malgré les liens qu'elle entretient avec la pénitence. Il n'en va pas de même dans Les Fleurs du Mal, où l'humiliation est éprouvée ou infligée avant même d'être décrite, plus que décrite. Car ce qui frappe, avant même que l'attention du lecteur soit retenue par ces scènes, où c'est souvent de l'humiliation du poète lui-même qu'il s'agit, c'est que c'est au lecteur ou au destinataire des poèmes que Baudelaire semble vouloir d'abord infliger des humiliations. C'est une pédagogie du fouet, comme a pu le dire un critique à propos des petits poèmes en prose. Une pédagogie qui souligne l'exigence poético-éthique en dénonçant les mensonges de la belle âme et le conflit entre l'infini du désir et la finitude de l'existence corporelle. Dès les premiers vers du prologue, le lecteur se voit apostrophé comme par un moraliste. Je cite « La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. » Pour être à la fin du poème, quand l'ennui a été nommé, associé par force à l'abaissement du poète. Tu le connais, lecteur, tu le connais, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Ce qui accroît encore l'humiliation infligée est la supposition de son déni chez le lecteur. Dans Une charogne, s'adressant à la femme qu'il appelle « mon âme », Baudelaire lui rappelle la rencontre qu'ils ont faite d'un objet, la charogne, un cadavre de femme longuement décrit dans sa posture lubrique. Puis le poème s'achève sur ces vers. « Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion, oui, telle vous serez, ô reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. » On retrouve ailleurs un certain nombre d'images de putréfaction, de cadavres mutilés, de martyrs, de corps dévorés par la vermine, mais il y en aurait beaucoup trop pour que j'en fasse la recension ici. Mais on rencontre aussi, greffé dans les poèmes, des notations à valeur générale qui semblent dresser un tableau où l'existence humaine est vouée à des supplices auxquels prend part l'humiliation. Ainsi, dans le voyage, parmi le spectacle ennuyeux de l'immortel péché, il y a le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant. L'acte sexuel lui-même est vu dans les journaux intimes comme une tragédie du déshonneur. C'est la volupté d'humilité qui y mène jusqu'à une espèce de mort. Vision placée sous le signe de l'humiliation commune, car comme je l'ai dit, le poète n'est pas moins humilié que le lecteur. Pour s'en convaincre, il suffit de relire la Béatrice où la reine de son cœur surgit du nuage de démons et se met à rire avec eux de sa sombre détresse, en leur versant parfois quelques sales caresses. Ou à Bénédiction. Dans Bénédiction, le poète est humilié par sa mère qui le maudit et par sa femme qui le déchire. Mais malgré cette humiliation, ou plutôt du fait de cette humiliation, il reçoit la consécration réservée aux anges. « Je sais que vous gardez une place au poète dans les rangs bienheureux des saintes légions et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus, des dominations. » Alors, il faut signaler un autre aspect de l'humiliation qui s'ajoute à sa dimension psychique ou morale et qui doit être compris aussi, elle doit être comprise aussi du point de vue de l'esthétique. C'est la position masochiste du poète au pied d'eux, au pied de la statue, au pied de la géante, au pied de la Vénus de marbre. Je pense au sonnet « La beauté ». Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Les poètes, devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers, consumeront leurs jours en d'austères attitudes. Je pense au poème en prose « Le fou et la Vénus » et dans une moindre mesure au sonnet « La géante ». J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante comme au pied d'une reine, un chat voluptueux, où la posture d'adoration nonchalante n'est pas l'humiliation, mais n'est pas exempte d'humiliation. Alors, du point de vue de l'histoire des formes, je crois qu'il faut rappeler qu'une des questions qui se sont posées avec une acuité particulière dans le romantisme est celle du rapport à la beauté idéale. La statuaire, en tant qu'expression de la beauté antique, avait longtemps constitué le modèle de toute beauté. C'est précisément cet idéal qui est contesté par Baudelaire. Que signifie l'humiliation par l'indifférence de la statue ? Ah, déesse, ayez pitié de ma tristesse et de mon délire, dit l'être affligé qui se trouve au pied de la colossale Vénus dans le poème en prose. Mais l'implacable Vénus regarde au loin, je ne sais quoi, avec ses yeux de marbre. La statue, c'est l'idéal de la beauté classique, symbolisé par la sculpture, qui revendique ses droits au moment même où il disparaît. Baudelaire a été un des premiers à considérer que l'art, ou plutôt la qualité véritablement poétique, ne sont plus dans la statue de Vénus, c'est-à-dire dans la réalisation d'un idéal de beauté plastique qui n'est qu'une fausse monnaie, pour reprendre le titre d'un poème en prose, mais dans le rapport douloureux ou meurtri, humilié, avec cette représentation narcissique de la beauté qui est indifférente au monde extérieur et qui ne peut que désespérer ses adorateurs. La réquisition du beau idéal, tentation fatale mais désuète, celle de l'art pour l'art, du Parnasse, de Gautier, continue d'exercer ses droits sur lui, mais la poésie, il ne sait, naît du mouvement de révolte que suscite l'humiliation qu'inflige le beau idéal. Donc ce qui pourrait être interprété comme une posture masochiste est en fait une méditation sur la nature du poétique et sur ses rapports avec la beauté. On a la confirmation de la modernité de cette humiliation à double sens avec Rimbaud à peine une vingtaine d'années plus tard dans La saison en enfer où s'exprime très clairement la dialectique poétique entre humiliation et humilité. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Et si on rapproche ces lignes d'un passage d'adieu, on trouve l'humilité avec le rapport à l'humus, au sol. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. La beauté, une fois révoquée, c'est la matière psychique du poète lui-même, son fort intérieur, que la poésie se donne pour objet. Baudelaire est le premier à l'avoir fait. Si on veut penser que l'humiliation n'a lieu que devant un public, il faut admettre qu'un tel public peut consister en ce regard introspectif formé dans la conscience par le simple fait d'exister et par la division, la conflictualité intérieure que le christianisme avant la psychanalyse a appris à reconnaître. C'est Leoton Timoroumenos. Je suis la plaie et le couteau. Je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Ces moments où l'humiliation est activée dans la vie psychique participent à l'élaboration des nouvelles voies que recherche la poésie, qui n'a plus pour condition la mise au point d'un savoir-faire. Ces nouvelles voies supposent une révolution accomplie non seulement dans l'univers des formes et des techniques, mais d'abord dans le vif du destin personnel. Seul, nu, en cœur, en vue, comme écrit Jouve. C'est pourquoi, écrit Jean Starobinski, conversion, sacrifice, suicide sont les termes métaphoriques et pas seulement métaphoriques qui en rendent compte. L'expérience que constitue la descente dans ses propres imbibes intérieurs confirme l'existence du péché, qui est la première des humiliations pour la nature humaine. L'aspiration au bien est constamment contrecarrée, ce qui fait écrire à Baudelaire « Théorie de la vraie civilisation, elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. elle est dans la diminution des traces du péché originel. Ce juge intérieur, Jouve l'assimile aux croyants. Je cite « Je contiens certainement un juge implacable, sorte de bourreau. Le bourreau, comme le croyant, veulent que je travaille sans cesse. » L'intérêt de Jouve pour la découverte de l'inconscient comme réservoir d'images monstrueuses en attente de forme et pour la psychanalyse, bouleversement qui a coïncidé avec la rencontre de Blanche Reverchon, a certainement été accru par la pensée des moyens que la psychanalyse paraît offrir à l'humiliation. Je cite quelques lignes que j'extrais du roman Vagadu, qui est le roman d'une psychanalyse. C'est le psychanalyste qui y semble le dieu absent et la patiente qui s'adresse à lui pour clamer son dénuement, et le dénuement dans lequel elle accuse son psychanalyste de la laisser. La patiente est comme le Christ au jardin des Oliviers. Voici ce qu'elle dit. « Vous m'avez retiré tout. Que m'avez-vous rendu en échange? Serait-ce la santé? Laissez-moi rire. Je manquais de mourir il y a 8 jours. Serait-ce le bonheur? Je suis une fontaine de larmes. Vous m'avez exposée toute nue et vous avez montré ma honte. Et ensuite, ne mettrez-vous pas un pansement sur cette plaie? Mais vous ne pouvez plus rien. Vous êtes sans moyens. » Et pour Jouve, le reniement radical de son œuvre antérieure obéit à une exigence semblable de dénuement. « J'étais orienté par 2 objectifs fixes, dit-il. D'abord, obtenir une langue de poésie qui se justifiait entièrement comme chant. Pas un des vers que j'avais écrits ne répondait à cette exigence. Et trouver dans l'acte poétique une perspective religieuse, seule réponse au néant du temps. Mourir, renoncer, brûler tous les livres, c'est une façon de participer profondément à la mort du Christ et de s'avancer à la rencontre de sa propre naissance à la poésie, comme on l'a vu dans le vrai corps. Le corps du Christ mort, c'est la mort liminale qui préside à l'entrée dans l'œuvre. Aussi, les effets produits par la dégradation, l'abaissement réel dans la société, quand il survient, ne peuvent que se conjoindre à l'humiliation vécue dans la conscience même du poète ou mise en œuvre par lui. Je reviens à Baudelaire et à cette phrase, d'ailleurs très connue, « Mes humiliations ont été des grâces de Dieu ». De quelles humiliations parle Baudelaire? Aux alentours de 1861, date vraisemblable de ce feuillet. Des humiliations réelles qu'il a subies. La mise sous tutelle qu'il a obligé à s'endetter, à supplier sa mère et son notaire, mais aussi à travailler et à publier dans les journaux pour gagner sa vie. Il pense à la maladie, sans doute. Mais c'est certainement le procès intenté aux fleurs du mal en 1857 qui constitue la référence essentielle. Il s'attendait, a-t-il confié, non seulement à être acquitté de l'accusation, mais à ce qu'on lui fît réparation d'honneur. Cela n'a pas été le cas. Ce procès, humiliation réelle, humiliation par malentendu, peut être compris sur un plan symbolique. La même année, un peu avant, c'était le procès de Madame Bovary, avec le même chef d'accusation, offense à la morale publique et religieuse. Le roman fut acquitté, la poésie condamnée. Soyons certains que Baudelaire a été sensible à cette différence de traitement. Or, il y a ici aussi de la gloire dans l'abaissement. On le voit bien dans le projet de préface pour la 3e édition. S'il y a quelque gloire à n'être pas compris, ou à ne l'être que très peu, je peux dire que je l'ai acquise et méritée d'un seul coup. Offert plusieurs fois de suite à divers éditeurs, poursuivi et mutilé en 1857 par suite d'un malentendu fort bizarre, lentement rajeuni, accru et fortifié pendant quelques années de silence, disparu de nouveau, ce produit de la muse des derniers jours ose affronter aujourd'hui pour la 3e fois le soleil de la sottise. On perçoit dans ces lignes le renversement de l'humiliation de n'être pas compris comme poète en gloire de devenir encore plus poète, rajeuni, accru et fortifié. On n'est pas obligé, me dira-t-on, de songer à la manière dont le Moyen-Âge chrétien a pour son compte traité la question de l'humiliation devant cette déclaration. On pourrait s'en tenir à l'opposition entre haut et bas, gloire et mépris. Et même, dans un autre registre de pensée, commenter l'équivalence entre les contraires si bien mise en œuvre dans l'inconscient. D'une certaine manière, humiliation et gloire, c'est la même chose. Mais ce serait, je crois, négliger l'épaisseur que la sédimentation des siècles offre aux structures qui forment la pensée et la sensibilité. Ce serait négliger aussi le fait que Baudelaire a vécu sa condamnation comme une condamnation de la poésie elle-même. Comme le Christ est mort pour nos péchés, le poète s'offre comme victime expiatoire en défense et illustration de la poésie. C'est précisément en cela que ces humiliations ont été des grâces de Dieu. Car ce procès, loin d'altérer sa capacité créatrice, l'avait en effet conduit à ajouter les tableaux parisiens dans l'édition de 1861, c'est-à-dire à bouleverser et à enrichir la signification spirituelle de son recueil. La ville moderne devenait le lieu où s'expérimente la poésie. Le promeneur parisien, sollicité par les mille aspects de la vie urbaine, s'ouvrait à la charité, à la compassion, dans le cygne, dans les petites vieilles, dans la patiente. Le même mouvement le conduira à passer au poème en prose, au Spleen de Paris. Je cite Les Foules, un de ses poèmes en prose. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un instant leur sot orgueil, qu'il ait des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés. Jouve va commenter la phrase de Baudelaire sur ses humiliations dans une des proses de 1960, une prose intitulée « Le sourd », en calquant le début de sa page sur les Béatitudes. Mais l'exemple du procès de Baudelaire le conduit aussi à souligner, sur un ton de pamphlétaire, l'humiliation de la poésie dans la société, en rapport avec le développement croissant d'une dictature de la rentabilité. Je cite Le Sourd. « Heureux celui que poursuivait le procureur et que persécutait la justice impériale, pour qui les humiliations étaient des grâces de Dieu. Parce que Dieu faisait donc des grâces aux poètes en ce temps-là, il n'en est pas de même aujourd'hui. Remarque celui qui, pour avoir le droit de parler, est devenu sourd. Car ils ont trouvé le truc infiniment meilleur d'attribuer d'office la non-existence à une certaine espèce de parole. » Cette parole, c'est la poésie, bien sûr. « Par une adaptation très soigneuse des moyens de panégyrique aux moyens comptables, on établit que cette poésie n'est pas née à ce monde-ci. Et puisqu'elle n'est pas née, il n'en faut rien dire. Mais hors de la zone maudite, ce ne sont que banquets de louanges, signatures d'étoiles, consécration d'étoiles, pardon. J'ai abîmé le texte, mais ce n'est pas grave. Consécration d'étoiles et hurrah à la vogue. Le fabricant est d'accord, le vendeur d'accord, et le public dont il faut soulager la bourse, d'accord. » On peut être sensible dans cette page à une certaine amertume, sur laquelle, qu'il ne faudrait pas prendre pour uniquement l'humiliation d'un auteur qui n'a pas trouvé le succès, parce qu'évidemment, le sourd, c'est lui. Hein, celui qui était obligé de ne rien entendre du monde qui l'entoure pour pouvoir continuer à être poète, c'est lui, c'est Jouve. De cette méconnaissance, de ce retranchement volontaire, Jouve s'est fait une gloire. Pour lui comme pour Baudelaire, c'est d'être un paria dans une société de plus en plus détournée des exigences spirituelles et esthétiques. C'est de l'abaissement que le poète tire sa qualité de poète. Il n'est pas douteux que le modèle christique si actif chez lui collabore, comme chez Baudelaire, à cette représentation. Dans Les Fleurs du Mal, les passages sont nombreux où se rencontrent les scènes de la Passion ou de la Crucifixion, avec une identification plus ou moins explicite du poète au Christ martyrisé. Je n'en ai évoqué que quelques-uns. Il y en a d'autres, et j'en cite encore quelques autres exemples avant d'avancer. Dans le poème en prose intitulé « La corde », qui évoque le suicide par pendaison d'un jeune modèle de Manet, surgit une scène de descente de croix, comme Pierre Pachet l'a montré. Dans la fin du voyage à Cythère, qui conduit du paganisme heureux à l'inquiétude chrétienne, la vision depuis la côte d'un gibet avec un pendu dévoré par les oiseaux conduit à ce vers « Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes ». Et le poème se conclut ainsi « Le ciel était charmant, la mer était unie, pour moi tout était noir et sanglant désormais, hélas, et j'avais comme en un suaire épais le cœur enseveli dans cette allégorie. Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image. Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. » Alors, il est évident que tous ces poèmes que je cite un petit peu en vrac relèvent de commentaires qui pourraient être bien plus pertinents, qui pourraient être différents. est plus appropriée. Mais si je les cite de cette manière, c'est pour qu'on voit mieux comment fonctionnent les identifications du poète au Christ de la Passion dans ces deux directions complémentaires. L'humiliation d'exister éprouvée par le poète et dont il fait sa matière poétique est redoublée par l'humiliation réelle subie dans la société du fait de l'évolution des genres littéraires, de l'accroissement du matérialisme, du peu d'intérêt pour la poésie et de l'incompréhension que le monde lui oppose. Mais toutes ces humiliations produisent aussi un accroissement de poésie et donc une sanctification. Entre beaucoup d'autres, le poème en prose « Le vieux saltimbanque » offre l'allégorie de l'humiliation. Enfin, de l'humiliation sans en faire surgir la glorification. Il commence de cette manière, ce poème. « Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours. » Et ensuite, le poème met en scène un histrion dont les tours n'intéressent plus le public et dont le narrateur, touché par sa décrépitude et son abdication, cherche à s'approcher pour lui faire l'aumône, tout en craignant de l'humilier. Mais il en est empêché par un mouvement de foule. Comme dans le voyage à Cythère, c'est la fin du poème qui en délivre la pensée. Et, m'en retournant, je cite, « Et, m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer. L'humiliation relève donc de la poésie, non pas au sens où elle fournirait un thème, un matériau, des récits, mais au sens où l'abaissement est l'indicateur, le porteur et la promesse d'une élévation. Pour Baudelaire, on peut dire que l'humiliation est même qualifiante, puisqu'elle lui a permis d'accéder ou d'espérer accéder à la charité. Elle est un statut du poète, de la poésie n'existant en vérité qu'à travers l'humiliation, le poète ne naissant à la poésie que du fait de cette humiliation qu'il a pour fonction de reconnaître et accepte de subir. Ayant suggéré ce lien intime entre humiliation et poésie, quelle place faire à l'humilité ? Je voudrais pour finir revenir vers Jouve, le Jouve des débuts, de cette période où sont composées les noces avec sa section Humilis, où sont composées aussi Paulina 1880 et Le Paradis perdu. Pour Jouve, je crois que ce sont les valeurs attachées à l'humilité qui, durant ces années, seront qualifiantes au regard de la poésie. C'est une période durant laquelle il lit les mystiques, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Mais il lit aussi François d'Assise, dans le Speculum Perfectionis, précise-t-il. C'est-à-dire dans l'édition donnée par Paul Sabatier des Mémoires de Frère Léon, le plus proche compagnon de Saint François dans les dernières années de son existence. On sait maintenant que ce texte, Le Miroir de la Perfection, date de 1318, qu'il n'a donc pas été rédigé dans les années qui ont suivi la mort de Saint François, ce qui en minore l'importance, mais qu'il a été une source de Thomas de Celano. Ce livre, édité pour la première fois en 1898, a été réédité jusqu'en 1930. La vie de Saint François, du même Paul Sabatier, édité, elle, la première fois en 1893, a connu un succès encore plus considérable, 44 éditions jusqu'en 1931. C'est un travail qui a joué un rôle important dans les études sur Saint François, parce qu'il est le premier à montrer Saint François, je cite André Vaucher, comme un personnage profondément humain, ayant vécu une expérience spirituelle très profonde, mais en dehors de toute référence théologique. De ce fait, le début du XXe siècle est une période où François d'Assise, a été très à la mode dans les milieux intellectuels et la bourgeoisie cultivée. Sabatier, à la fin de sa vie, disait que s'il avait su à l'avance les cohortes d'anglais esthète et d'américain snob qui se précipiteraient à Assise à cause de son livre, il n'aurait pas écrit ce livre. Jouve est tout de même sensible à la mode, quoi qu'il en dise. Et Jouve, il traduira le Cantique du Soleil et quelques Fioretti dans Mystérieuses Noces, la première version de Noces, mais il ne les gardera pas dans l'édition définitive de 64, alors qu'il avait placé à la fin de l'édition de 26 la traduction du Cantique du Soleil, comme pour laisser entendre qu'il s'effaçait afin que parle une voix plus pure que la sienne. À travers sa fréquentation de Saint-François, Jouve trouve donc à méditer sur l'humilité, sur la pauvreté et sur l'humilité comme sortie de l'humiliation, je crois. Il me semble qu'on en trouve une illustration dans son roman Pauline en 1880, son œuvre la plus connue qui a été publiée donc en 1925. Ce roman est composé d'une suite de courts chapitres qui isolent, alors qu'il n'écrivait plus de romans, mais il explique que c'est un roman de poète. C'est dans la période après la conversion et avant qu'il renonce au roman qu'il a écrit ce roman. Et il explique qu'un roman de poète, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un roman, un roman simple. Et de fait, la composition même du roman en fait une prose poétique. Donc il y a des moments de la vie de Paulina, il y a des extraits supposés de son journal intime pendant la période où elle est novice au couvent des Visitandines. Mais je crois que l'histoire de Paulina, que je vais résumer, je suis obligée, et c'est un peu dommage, parce que c'est un peu ridicule de résumer un roman comme celui-là, mais bon. En tout cas, je crois que ce roman peut être lu tout entier selon l'axe orgueil, humiliation, humilité. Et d'ailleurs, il comporte, ce roman, de nombreuses allusions à saint François d'Assise, la plupart du temps discrètes, et qui n'ont jamais été relevées encore par le critique. Qui est Paulina ? Paulina est une jeune, belle et fougueuse aristocrate de Milan qu'on voit grandir et qui, enfant, s'enivre du rapport avec la nature tout en éprouvant des troubles sensuels devant une reproduction du mariage mystique de Sainte-Catherine par Sodoma. Petite fille à la campagne, elle adore un chevreau et pour lui éviter d'être égorgée par le fermier, elle préfère le mettre à mort elle-même de sa propre main. Jeune fille, elle est sous la garde jalouse de son père et de ses frères. Sa chambre est contiguë à celle de son père et la nuit, elle y est enfermée à clé, avec la clé de la chambre rangée pour plus de précaution sous l'oreiller de son père. Quand elle arrive à l'âge de 16 ans, cela ne l'empêche pas de recevoir dans sa chambre une nuit, puis aussi les nuits suivantes, le comte Cantarini. Le comte Cantarini est un bel homme, cultivé, séduisant, mais un homme marié, un invité de son père avec qui elle n'a parlé qu'une fois avant de lui ouvrir sa porte la nuit. Mais Paulina est dans l'orgueil d'elle-même, dans l'orgueil aussi de sa sensualité à relents mystiques. Même la conscience de sa faute lui procure de l'orgueil pendant les longues années que durera cette liaison secrète. C'est encore par orgueil qu'elle refuse d'épouser son amant quand il se trouve veuf. C'est par orgueil qu'elle préfère alors entrer au couvent, un couvent de Visitandines à Mantoue, où elle s'inflige des mortifications, bien sûr interdites par la mère supérieure, qui est pleine de sagesse. Elle se fabrique de faux stigmates, une blessure à chaque pied, pour imiter les plaies du Sauveur. Un souvenir sans doute des stigmates de saint François, mais comme il faut les cacher, les pieds sont préférables aux mains. Dans son journal, elle note ses extases mystiques. « Je suis la déchue heureuse ». La mère supérieure finit par chasser Paulina du couvent, non seulement à cause des mortifications auxquelles elle refuse de renoncer, mais aussi à cause du rayonnement pernicieux de sensualité qui fait que la sœur Perpétua, chargée de veiller sur son noviciat, est tombée amoureuse de Paulina. Chassée, Paulina s'installe à Florence, puis à Arcetri, cherchant à recréer dans la solitude une vie monastique, s'imposant une loi de silence, d'abandon, de pauvreté. Hélas, notre jour, on ne fait point un couvent à soi seul. Il n'y a qu'un saint qui puisse être seul dans la forêt. Elle cherche sans succès à retrouver la proximité avec Dieu dont elle croyait avoir fait l'expérience au couvent. Mais peu après, une promenade qui la conduit jusqu'à la porte toujours fermée, le couvent des Clarisses, et à ce point le roman cite en italien les premières lignes du Cantique du Soleil, elle prend conscience que l'écran de verre entre elle et son Dieu s'est reformé, cette fois pour toujours. Alors, elle retrouve son amant, ils partagent leur vie pendant quelque temps, puis un jour, elle le tue, d'un coup de pistolet pendant son sommeil, après avoir eu la vision d'un ordre de Dieu inscrit sur le mur, « Dans quelques heures, tu le tueras ». Elle tente de se suicider, elle se manque. On est en 1880, d'où le titre du roman. Elle est condamnée à 25 ans de prison, graciée au bout de 10 ans. Mais le procès et ses 10 années sont évoqués en quelques lignes sous forme d'une sorte d'extrait de casier judiciaire récapitulant son existence en la centrant évidemment sur l'humiliation de la peine, enfin du procès et de la prison. Le dernier chapitre du roman, intitulé « Au soleil », est très frappant et c'est la raison pour laquelle j'ai si longuement évoqué le roman, parce que c'est par rapport aux pages qui précèdent que ce chapitre prend tout son sens. Si le mysticisme est dénoncé comme une frauduleuse voie d'accès à l'absolu, et s'il est clairement associé à l'orgueil de l'héroïne, une rédemption par l'humilité, et peut-être une forme d'accès à l'absolu, se manifeste dans les dernières pages. Paulina est sortie de prison, elle vit à Settignano. Elle est devenue une humble paysanne et suit le rythme des saisons, dans une maison pauvre, dans un total dénuement. Elle a changé de prénom, elle s'appelle Marietta. Ce prénom, je pense qu'il a été inspiré à Jouve par Mariette, la servante au grand cœur de Baudelaire, dont vous étiez jalouse, dit Baudelaire à sa mère. Mariette qui dort son sommeil sous une humble pelouse et qui, au contraire de sa mère, savait accomplir dans l'ordre des jours les plus modestes travaux, celle à propos de laquelle il se reproche et reproche à sa mère de ne pas être allé visiter sa tombe pour lui porter quelques fleurs. En tout cas, dans ce dernier chapitre de Paulina, le dialogue entre Marietta et son visiteur mystérieux est une scène de pure compassion, de simple rencontre entre deux êtres dont on ne connaît pas ou plus les singularités ou le passé, mais où chacun prend soin de l'autre. La voie de l'humilité apparaît ici comme une des issues à la conviction erronée qu'une humiliation recherchée est la voie de la sanctification. Mais cette leçon du dernier chapitre est délivrée sans nul dieu, loin de l'exacerbation religieuse des humiliations faussement mystiques. Paulina semble avoir enfin trouvé la grâce. À coup sûr, le modèle de Jouve pour cette humble existence est celui proposé par saint François avant même la constitution de l'ordre. Je cite quelques lignes de ce dernier chapitre. « Il ne faut plus avoir d'inquiétude à mon sujet. » C'est Paulina qui parle, enfin c'est Marietta qui parle. « Il ne faut plus avoir d'inquiétude à mon sujet. Je suis bien tranquille. Je vis de mon travail. À présent, je vous l'ai dit, tout s'arrange. Je n'ai plus de soucis d'argent comme les premières années. » Les paysans de Settignano ne sont pas méchants, vous savez. Ils ne barbouillent plus ma porte. Le pire qu'ils puissent faire, c'est rire, bêtement, quand ils me voient. Quelques-uns ont des complaisances. Non, non, je ne suis pas malheureuse. Mais oui, le soleil brille pour moi aussi. Et plusieurs fois dans l'année, vous arrivez de loin pour me voir. C'est plus que je n'en puis demander. Je suis favorisée, au contraire. Vous savez, j'ai tout accepté. Je serai jugée, comme tout le monde. La leçon que l'on retire de ce roman, s'il en est une, c'est qu'après ces fausses humiliations à vaines visées de sainteté que constituait le sens de la faute et du péché, puis les mortifications, et qui n'étaient que des manifestations du même orgueil, y compris dans le rapport au péché, l'humiliation réelle d'être dans un premier temps chassée du couvent, puis d'être jugée, condamnée et emprisonnée, ont été pour Paulina la voie vers une humilité véritable, vers une vie plus sainte, même si plus simple que sa vie antérieure, vers l'humilité qui se confond avec la charité que Baudelaire regrette de ne pas avoir exercée envers Mariette. C'est dire aussi que tant qu'il y a jouissance dans l'humiliation, il n'y a pas de véritable humiliation et encore moins d'humilité. On est assez proche de certains des textes commentés par Michel Zinc, je pense à François d'Assise, bien sûr, mais aussi le Sermon 34 de Bernard de Clairvaux que vous avez commenté, où Bernard de Clairvaux explique que Dieu ramène à l'humilité ceux qui aspirent à de grandes choses dans l'ordre spirituel. Jouve, dans cette période du moins, parce que je pense que dans la suite de son œuvre poétique, les choses ont changé, dans cette période a mis en œuvre une tension proprement poétique entre les séductions exercées par l'humiliation baudelairienne et le désir d'humilité. S'il fait de Hölderlin une référence, c'est parce que Hölderlin est à la fois le voyant et le martyr non religieux qui peut incarner une image du poète. On retrouve, je crois, Hölderlin dans le poème intitulé « Corvilia » de la section « Humilis ». C'est Hölderlin à cause de l'humilité, à cause de la solitude, à cause du dernier vers, qui est une allusion aux visites rendues à Hölderlin à Tübingen. Le retrait du monde est érigé en modèle pour le poète, mais la proximité de l'avènement est suggérée au vers 3 par « Qui a-t-il entre toi et moi ?» entre guillemets, comme vous le remarquez. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ce sont les mots adressés par le Christ à sa mère aux noces de Cana, lorsqu'elle lui fait remarquer qu'il n'y a plus de vin pour les noces. c'est le premier miracle, le début de la vie publique et donc le premier pas vers la Passion. C'est aussi une reprise du Livre des Rois, juste avant qu'Élie s'apprête à ressusciter son fils. C'est ce que lui dit la veuve de Sarepta, « Homme de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je lis le poème, qui est court. Corvilia. Là-bas, il est humble, il n'a plus soif d'être aimé ni compris. Là-bas, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Là-bas, il est pauvre. Ses habits sont plus vieux que son cœur. Son visage est plus doux que sa main. Là-bas, il est seul. On a passé furtivement sur la neige éblouissante. On est venu, on est reparti. Il est là. Si Jouve, pour un temps, a fait une telle place au rapport entre humilité et poésie, c'est peut-être parce qu'il a pressenti que l'humilité serait une des voies de la poésie du XXe siècle, après lui. Rimbaud avait déjà dit « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres ». La poésie s'est progressivement vidée, purifiée, de tous les domaines avec lesquels elle avait frayé. Le mythe, la fable, l'exaltation du monde ou du moi, le récit. Ce qu'elle médite aujourd'hui, c'est le fait même de la poésie, à travers le rapport du poète à l'infime, au petit, à l'humble, au quotidien. Les choses de Ponge, l'herbier, le minéral chez Guy Vic, l'oiseau, le fruit, les saisons chez Jacotet, le simple, les pierres, l'arbre et l'ortie chez Bonnefoy. Mais à travers les éléments de ce microcosme qu'humblement elle semble se donner pour matière, elle n'a pas renoncé, bien au contraire, à l'idée de l'avènement d'un nouveau mode d'être à soi, au monde et entre les êtres, ce que j'ai évoqué trop rapidement en commençant comme une fonction sotériologique. Je conclus en donnant un exemple contemporain de cette fonction sotériologique dont la poésie se sent investie, ce en quoi elle poursuit la méditation baudelairienne. La réversibilité entre humiliation et avènement est toujours présente dans l'exemple que je vais lire, mais le rapport direct avec l'humiliation de la croix a disparu. Elle est remplacée par un paysage d'apocalypse où la poésie serait le principe de résurrection. C'est Yves Bonnefoy qui, dans un poème récent, interpelle directement la poésie en ces termes. « Ô poésie, je sais qu'on te méprise et te dénie, qu'on t'estime un théâtre, voire un mensonge, qu'on t'accable des fautes du langage, qu'on dit mauvaise l'eau que tu apportes à ceux qui tout de même désirent boire et est déçu, se détourne vers la mort. » Je saute quelques vers. « Et si demeure autre chose qu'un vent, un récif, une mer, je sais que tu seras, même de nuit, l'encre jetée, les pas titubants sur le sable et le bois qu'on rassemble et l'étincelle sous les branches mouillées et dans l'inquiète attente de la flamme qui hésite, la première parole après le long silence, le premier feu à prendre au bas du monde mort. » Je vous remercie.